percute.
C'est un générique d'urgence.
Georges Clounet.
Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'hôpital? Parce que le forfait hospitalier augmente.
Oui, le gouvernement va augmenter divers forfaits facturés aux patients en cas d'hospitalisation ou de passage aux urgences. Ça commence dès dimanche, c'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé, pour faire économiser 450 millions d'euros à la Sécurité sociale. Il va falloir donc mettre la main à la poche. Par exemple, le forfait journalier hospitalier, qui est la somme laissée à la charge des patients hospitalisés au titre des frais d'hébergement et d'entretien, va passer de 20 à 23 euros. Par jour. Nouvelle augmentation également programmée le 1er avril, c'est la participation forfaitaire facturée en cas de soins lourds et coûteux, notamment ceux dont le prix dépasse 120 euros. Ça va passer à 32 euros contre 24 actuellement. Alors bon, on va payer plus parce que la Sécu manque d'argent. En même temps, est-ce que le service proposé s'améliore? Est-ce que c'est vraiment là qu'il faut faire des économies? Parce qu'on sait qu'à l'hôpital, on a beaucoup embauché, notamment du côté de l'administratif. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire?
Jérôme.
Non, mais là, si tu veux, il n'y aura aucun effet sur la qualité du soin, puisque normalement, c'est un forfait qui sert à financer l'hôtellerie, la restauration, l'hébergement, les chambres, etc. Donc si en plus, on prend une part de ce pognon pour rembourser la Sécu...
Oui.
À l'évidence, ça ne va pas aller à l'hôpital. Donc, à l'évidence, ça ne va pas aller à l'hôtellerie, à la restauration, etc.
La restauration à l'hôpital, donc, ça va on rien peut en parler. Hein,
déjà. La restauration, dans certains endroits, elle n'est pas tip-top. Ça a fait beaucoup de progrès quand même, à cause des normes. Là, pour le coup, les normes ont quelque chose de bon, parce que ça a amené quand même plus de qualité nécessaire, notamment la loi Egalim, avec la nécessité des circuits courts qui sont imposés aux hôpitaux maintenant. Mais si on ampute une part de ce projet, de ce budget pour renflouer les comptes de l'assurance maladie, ben, ça veut dire qu'on aura plus de difficultés pour l'hôtellerie, la restauration, etc. Donc c'est, encore une fois, c'est la politique à la gribouille. On creuse un trou pour aller boucher un autre trou, et après ce trou...
C'est la politique des fonds de tiroir. C'est la politique des fonds de tiroir.
C'est surtout la politique, brouillon, quoi. La politique qui vise à faire les poches de toujours les mêmes personnes.
Oui.
Parce que y a des cas d'exonération. Heureusement, maternité, voilà, tu payes pas le forfait hospitalier. Mais si tu es bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire ou si tu es parmi les plus pauvres, tu ne payes pas ce forfait non plus. Et donc en réalité, c'est le contribuable, celui qui travaille, qui paye ses impôts, qui finance déjà le service public, qui, si il va à l'hôpital, s'il utilise ce service public, paiera plus cher encore. Mais attendez, pardon,
alors qu'il cotise déjà.
Le bonhomme qui paye de plus en plus d'impôts, qui n'est pas exonéré parce qu'il ne bénéficie pas de la C2S, etc. Et lui, il en a ras-le-bol. Il finance déjà le service et il va le payer plus cher que les autres. On ne peut pas continuer à régler le problème budgétaire en ne diminuant pas les dépenses et en prenant juste plus d'argent à ceux qui peuvent encore donner parce qu'il leur en reste un peu.
Juste, j'apporte un bémol à ce que tu dis. C'est pris en charge en grande partie par les mutuelles.
Oui, mais les mutuelles augmentent.
Les mutuelles augmentent, mais si tu regardes un petit peu quel est le chiffre d'affaires des mutuelles, le bénéfice des mutuelles, où passe leur argent, comment il est détourné.
Oui, d'accord, mais ça, c'est un autre problème.
Non, mais c'est pas un autre problème.
Non, Non.
Quand tu veux jouer dans le monde de la santé, tu joues avec les mêmes règles. C'est-à-dire, quand tu commences à prendre une part du pognon que tu gagnes pour sponsoriser des Vendée Globe, pour sponsoriser X, pour acheter des terrains de foot ou des stades, etc. Non, mais c'est des sociétés privées, mais qui sont censées normalement
prendre
l'argent qu'ils gagnent.
D'accord, mais en attendant,
il y a des milliards et des milliards.
Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut dénoncer effectivement la façon dont les mutuelles font nos poches. Néanmoins, là, vont faire encore nos poches puisque le forfait hospitalier va augmenter. Donc derrière, les mutuelles vont augmenter.
Laura. Oui. Alors moi, Antoine, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. On ne pioche pas toujours. Enfin, on pioche toujours dans la même poche, mais c'est surtout la poche des malades. Enfin, je veux dire, là, tu vas encore avoir. J'en ai déjà parlé. Tu vas avoir les allocations pour les gens qui souffrent de longues maladies. Qui vont diminuer alors qu'il y a tellement. En fait, on oublie que la Sécu, ce n'est pas juste la maladie.
ALD, ils sont exonérés du forfait hospitalier.
Oui.
Si tu es en ALD,
oui.
Non, mais là, je ne te parle pas de ça. Je te parle que les indemnités pour les gens malades va être diminuées.
Oui.
C'est-à-dire que l'argent qu'ils touchent parce qu'ils sont malades. Donc ça, on va les toucher. En revanche, on va pas aller mettre son nez dans l'ASE, qui est un nid à la pédocriminalité, à la prostitution des mineurs. On ne va pas aller toucher à toutes les fraudes à la carte, à la sécurité. À la carte
si, vitale. Ils essayent.
Ouais, enfin, Enfin, moi, quand je donne ma carte vitale à ma pharmacienne, elle voit ma tête, elle se rend bien compte que si c'est pas moi, enfin que j'ai pas la même tête sur la photo. Il y a plein de choses à faire. Tu peux faire des... maintenant on a des cartes d'identité biométriques. Alors pourquoi ne pas faire une carte vitale biométrique? Il y a quand même des gens qui sont arrivés illégalement sur le territoire français qui bénéficient parfois de meilleurs soins que des retraités qui ont payé des impôts, qui payent encore quand ils sont à l'hôpital et qui continuent de payer des impôts sur une retraite qu'ils ont eux-mêmes. Enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal de choses, sans parler d'administratif. Ah si, c'est le budget sécu.
Non, pas l'AME.
Non, ça c'est
pas l'AME.
En revanche, c'est pas, à l'hôpital, c'est pas... n'y a-t-il pas des économies à faire? Encore une fois, sur l'administratif, il a été quand même notifié à plusieurs reprises que, par exemple, si on se compare avec l'Allemagne, on a un taux d'encadrement administratif beaucoup plus important que nos amis allemands, qui mettent plus le paquet sur le soin. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. On a augmenté toute cette charge administrative. Peut-être moins d'administratifs, moins d'employés et donnons le maximum aux soins, aux médecins et arrêtons de faire les poches.
Ça t'apporte quoi, toi, Jérôme, l'administratif? En quoi il a été nécessaire, selon vous, de l'augmenter, ou en quoi ça vous impacte?
On parle des ARS, par exemple.
Les postes non soignants dans les hôpitaux, les postes administratifs, effectivement. Tu as des hôpitaux, ça avait été dénoncé il y a 15 ans au moins déjà, l'hôpital Georges Pompidou, c'était un poste administratif pour un soignant.
Bah oui.
À un moment, on marche sur la tête, quoi. On a des espèces de réserves là qui sont là-dedans, avec des postes planqués qui n'ont rien à y faire aujourd'hui, quoi. Donc il faut qu'on revoie
surtout un petit que peu l'intelligence tout ça, artificielle, et qu'on reflète, effectivement, l'intelligence artificielle va nous aider, à peut-être faire un peu moins l'administratif et mettre le paquet sur les gens du terrain à l'hôpital ou ailleurs.
Et puis moi j'en ai pas encore parlé, mais quand tu vois les urgences, tu vois qu'elles sont saturées, y compris d'une partie de patients, de malades, qui arrivent de manière clandestine, illégale. L'immigration sature également nos hôpitaux. Et donc, traiter la question de l'immigration, ce sera également diminuer la pression sur les hôpitaux. Il faut aller voir les urgences.
Non, la problématique des urgences, c'est les lits d'aval. La problématique, chaque fois, on a l'impression que c'est les entrées, en fait, c'est les sorties.
Non, pardon.
Peux plus faire sortir les patients des urgences.
Pourquoi t'attends 6 heures? Avant, t'attendais pas 6 heures.
À cause de ça, parce que tu as les lits d'aval qui sont pas disponibles.
Non.
Et les lits d'aval sont pas disponibles parce que le moyen de séjour n'est pas disponible.
Mais tout le monde n'est pas disponible. Quand tu arrives aux urgences, tout le monde n'est pas hospitalisé. Tout le monde n'est pas hospitalisé la plupart des temps. Les gens qui viennent aux urgences, ils viennent pour un soin, ils repartent chez eux.
T'as la problématique des déserts médicaux, t'as la problématique des difficultés d'accès aux soins. Il faut arrêter avec le désert médical qui est un terme complètement galvaudé. Les grandes villes aujourd'hui, c'est les premiers déserts. À l'évidence, c'est pas des déserts. À l'évidence, il y a des médecins partout. Pourtant, tu n'arrives pas à avoir de rendez-vous. Et comme tu n'arrives pas à avoir de rendez-vous, en désespoir de cause, tu arrives aux urgences des fois. Alors. Mais c'est pas ça qui les embolise. Ce qui embolise, c'est la difficulté à faire sortir les patients.
On va écouter Grace. Elle voulait intervenir dans notre discussion. Elle est du côté de l'Essonne. Elle est vendeuse en animalerie. Bonjour Grace.
Bonjour.
Bienvenue. Vous voulez intervenir dans notre discussion sur l'hôpital, sur le fait que le forfait hospitalier va augmenter, parce que vous dites, maintenant, l'hôpital sans moi, quoi. En fait, c'est ça, Grace.
Mais c'est ça. Ben, je ne sais pas si docteur Marty se souvient de moi quand j'avais parlé pour la tumeur osseuse que j'avais eue à la mâchoire.
Oui.
Et ben, finalement, je suis allée en clinique.
Pourquoi ? Plutôt que l'hôpital, pourquoi ?
Rien qu'il y a 3 semaines, j'ai eu un accident de travail. Je suis allée à l'hôpital, on m'a dit 12 heures minimum d'attente. 12 heures minimum. Je suis allée en c'est clinique dingue. Privée, j'en ai eu pour 3 heures.
Et voilà, ça vous a coûté combien ?
Beaucoup. Mais c'est pas grave.
Non, mais dis pour qu'on ait un ordre de grandeur.
J'en ai eu pour quasiment 300 euros.
300 euros ? Et vous avez attendu que 3 heures. Ça aurait été gratuit à l'hôpital, mais c'était 12 heures.
Mais il n'y a rien de gratuit.
Gratuit, elle n'aurait pas sorti son carnet.
La santé, ça devient un truc de riche. Moi, j'ai une amie qui a un cancer. Elle devait faire une biopsie dans la colonne vertébrale.
Je touche 600 euros par mois.
Si elle devait faire, donc à l'hôpital public, si elle voulait un rendez-vous, donc c'était, je crois, dans la semaine, elle devait payer 400 euros. Sinon, elle devait attendre. Et donc, finalement, elle a son rendez-vous au mois de mai. Elle ne peut pas faire sa biopsie avant le mois de mai.
Mais ce que nous dit notre auditrice est extrêmement important. La France avait une chance jusqu'à aujourd'hui, qui était celui d'avoir un système de santé qui fonctionnait sur deux jambes et la possibilité pour les patients d'avoir le choix entre l'hospitalisation publique et l'hospitalisation privée. Or, l'hospitalisation privée est en train de mourir. Ouais. Je vous le dis ici sans exagérer. On a 50% des établissements qui sont déficitaires. On a des établissements qui sont proches du dépôt de bilan. On a Ramsay, qui est le principal aujourd'hui groupe de cliniques, qui annonce ce matin, qui distribue toutes ses actions aux Australiens, qui eux-mêmes, évidemment, comme ça va être des petits porteurs, vont vendre les actions. On va se retrouver avec des hedge funds qui vont reprendre la chose, sans doute, et Ramsay va quitter le secteur. et on va avoir des centaines d'établissements qui vont se casser la gueule. Et l'hôpital ne pourra pas reprendre ça, ce qui veut dire que vous n'aurez plus le choix. Et vous attendrez encore plus longtemps. Tout ça à cause des politiques qu'on a menées, qui ont taxé à outrance les établissements, qui ont flingué l'hôpital d'un côté, qui ont flingué les cliniques.
On y est aujourd'hui. Tu vois, quand on nous expliquait que la santé publique, c'est formidable, on a Grasse qui dit, moi, je peux pas attendre 12 heures par rapport à mon accident de travail, donc je vais dans une clinique, ça va me coûter plus cher, alors qu'elle cotise. Elle gagne 1600 euros, donc c'est pas une question de riche ou de pauvre. Elle a 1600 euros, elle a cotisé, et finalement, l'argent de ce qu'elle a cotisé ne sert à rien, elle est obligée dans une clinique privée. Excuse-moi, ça veut dire que le système ne fonctionne plus.
Ceci étant,
Soit on privatise, soit on fait un public efficace. Mais là, on est entre les deux et c'est
pire. Mais rappelons quand même que pour les urgences, pour les actes d'urgence, il y a 3 millions d'entrées dans les hôpitaux privés pour les centres d'urgence. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires. C'est remboursé de la même façon qu'à l'hôpital. C'est gratuit pour le patient, entre guillemets, de la même façon dans le privé comme dans le public. Il faut le rappeler parce qu'il y a des espèces de croyances qui font croire que non, tu vas payer cher. Non, les urgences, c'est la même chose.
Je remercie Grasse de ce témoignage donc, qui préfère la clinique à l'hôpital, mais par la force des choses. 12 heures d'attente contre 3 heures d'attente. Merci Grasse d'avoir été avec nous et bon courage surtout pour les prochaines semaines, les prochains mois que vous affronterez.